chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de votre émission quotidienne à votre avis, Nathalie Barge, pour vous accompagner dans ce débat. Comment améliorer la vie des personnes handicapées? C'est le thème du jour. On peut citer comme exemple le Nigeria qui a adopté une loi permettant d'accéder aux infrastructures et d'avoir aussi leur chance au plan social et professionnel. Est-ce qu'on est pris en charge dans votre pays si l'on est handicapé? Est-on soutenu par la société et la famille ou bien victime de discrimination? Est-ce qu'il existe des infrastructures et programmes adaptés aux diverses formes de handicap? Et vous, qu'est-ce que vous préconisez pour l'intégration de la personne handicapée? Car, comme on le va voir, tout n'est pas parfait sur cette question. Nous avons d'ailleurs un participant, Boukari Kiema, qui est secrétaire permanent de l'association des élèves et étudiants handicapés au Burkina Faso. Boukari, bonsoir.
Bonsoir Nathalie.
Merci beaucoup d'être avec nous pour cette émission. Alors, j'ai cité notamment le Nigeria, mais c'est dans la plupart des pays que les systèmes ne sont pas vraiment adaptés aux personnes handicapées. Et elles ont toutes la peine du monde à accéder notamment aux infrastructures publiques, faute d'installations adaptées à leurs états. Et notamment, donc au Nigeria, une proposition a été initiée pour corriger ces lacunes. On va voir si c'est le cas dans votre pays. Après 20 ans d'attente, la loi a finalement été adoptée et attend d'être promulguée par le président Muhammadu Buhari. Et ce qui est intéressant avec le cas du Nigeria, c'est que quand même, les handicapés sont 27 millions. Donc c'est le poids qui a fait en quelque sorte. Ils ont manifesté, notamment en novembre dernier, devant l'Assemblée nationale. Et c'est ce qui a fait que ça a poussé finalement à l'adoption de cette loi. Donc on sait que tous les problèmes que les handicapés rencontrent, c'est pour se déplacer dans la vie de tous les jours, dans des bâtiments à étages. Et l'on essaie de savoir s'il y a des dispositions qui sont prévues donc pour accéder à certains endroits, certains bâtiments, pour entrer aussi dans des bus, dans des trains, dans des voitures, etc. Même conduire des voitures. Donc Boukari Kiema, est-ce que vous-même, vous pouvez nous dresser un plan de la situation, notamment au Burkina Faso. Est-ce que ces structures existent, oui ou non?
Bon, chez nous, au Burkina Faso, il faut dire que la loi existe depuis 2012. Il y a une loi qui a été votée, la loi 012 du 1er avril 2010, portant promotion et protection des droits des personnes handicapées. À son article, à la section 4, à son article 21, il a dit que toute construction d'infrastructures publiques ou privées devant recevoir du public prévoit l'accessibilité des personnes handicapées. Pour les édifices, une rampe d'accès munie de mains de rampe, quand on n'accède pas, 5% est imposé. Mais la réalité sur le terrain est autrement, parce que certains mettent les rampes d'accès mais qui vont au-delà de 5%, donc ils ne sont plus accessibles aux personnes handicapées. Donc, lorsque vous arrivez, c'est comme il n'y avait pas encore de rampe d'accès pour pouvoir entrer dans l'administration.
Alors, quand vous parlez de rampe d'accès, c'est donc ces plateformes spéciales sur lesquelles on peut engager notamment un fauteuil roulant, c'est ça?
Voilà, un fauteuil roulant, facilement pour pouvoir avoir accès au bâtiment.
Ok.
Oui, mais c'est déplorable parce que ceux qui construisent actuellement, ça va au-delà de ça. Or, la loi est là. Oui. Il y a aussi le décret d'application qui a été raté, qui a été voté, qui a été même signé par le président et les ministres concernés. Mais la réalité est autrement. Donc, il faut, chez nous, on essaie de sensibiliser les structures qui ne respectent pas les 5%. Et parce qu'ils nous disent non, qu'ils n'ont pas les moyens pour faire autrement, nous, on essaie de trouver un partenaire qui va construire une autre rampe d'accès, afin qu'on puisse accéder facilement à l'édifice, quoi.
Ouais.
Mais ce que ces derniers oublient, bon, c'est que lorsqu'on fait ces rampes, c'est pas seulement pour les personnes handicapées. Parce que lorsque tu peux avoir tombé à la maison, avoir une fracture, lorsque tu arrives pour le service, tu fais comment? Comment tu vas monter les escaliers et autres? Mais lorsqu'il y a la rame d'accès, ça devient plus facile à accéder.
Donc vous, est-ce que vous parlez notamment pour l'université dans laquelle vous travaillez?
Oui, au niveau de l'université de Ouagadougou, les nouveaux bâtiments qui sont construits actuellement, les rames d'accès y sont.
D'accord.
Au niveau de l'université, là, ils nous comprennent beaucoup, tout ce qu'on travaille beaucoup ensemble. Mm-hmm. Donc, les rames d'accès respectent les 5 degrés de 5%. Mais souvent, c'est mis à des endroits où c'est un peu difficile à la personne handicapée de pouvoir avoir accès même pour trouver cette rampe-là. Donc, on essaie de trouver un partenaire tel que l'UNICEF qui nous accompagne. Et puis, on construit des rampes d'accès plus accessibles aux personnes handicapées.
Mais après, on imagine qu'il faut des ascenseurs spéciaux également pour monter les étages. Non?
Oui, pour les étages aussi, on a des difficultés à ce niveau, puisque la plupart des administrations, les premiers responsables sont au haut niveau. Donc, tout dernièrement, la semaine, j'ai passé, il faisait une publication sur Facebook où nous avons, moi et mon président, qui avec des petits, on a eu vraiment toutes les difficultés pour pouvoir avoir accès à une audience avec un responsable par rapport à une activité qu'on avait en vue.
Mais alors, racontez-nous justement, on aimerait bien avoir une idée, racontez-nous un petit peu cette galère-là. Comment vous vous y êtes pris pour pouvoir accéder à cette audience?
Ok, lorsqu'on est arrivé pour l'audience, c'était au deuxième étage. Mmh. Lorsqu'on est arrivé, le côté droit, puisque moi je vote du l'imam inférieur gauche, donc au côté droit du bâtiment, des escaliers, il n'y avait pas de la marche, les bras de marche. Mais côté gauche, il y en avait. Donc le président, on est arrivé, lui il marche avec deux piquets. Donc il fallait que moi je prenne un de ces piquets et je l'ai épaulé. Et on est monté doucement, jusqu'à pouvoir arriver au deuxième étage. Arrivé, on a dit au premier responsable, bon, on est arrivé, on a dit à votre secrétaire, si vous pouvez descendre, elle nous a dit non, que ce n'est pas possible. Que c'est nous qui voulons voir le DG, ce n'est pas le DG qui veut nous voir. Donc, c'est à nous de nous débrouiller pour monter. Bon.
Ah bon.
Quand on a 600 personnes en face de nous, vraiment, c'est déplorable, quoi.
Mm-hmm, absolument. On a resté avec nous, Boukari. On a Léon, Léon qui est en République démocratique du Congo, et il a écrit sur notre Facebook, chez nous les handicapés sont les négligés de la société, en plus dans certaines familles on les traite de sorciers, il dit c'est vraiment rare de voir un handicapé qui travaille dans un bureau dans notre ville. Léon, bonsoir. Allô? Je n'entends personne. Léon, êtes-vous là? Est-ce que vous m'entendez? Léon, est-ce que vous m'entendez?
Allô?
Oui, c'est vous, Léon?
Oui, je vous écoute.
Vous êtes dans quelle ville en République démocratique du Congo? Vous êtes dans quelle ville?
Je suis dans la ville de Mbujimayi.
Très bien, on vous écoute, à vous la parole.
Oui, comme je vous ai dit chez nous, les handicapés sont vraiment taxés de sortir dans d'autres familles. En plus, ils sont les plus négligés de la société. Et donc, chez nous, ils ne sont que dans des rues en train de demander. Les autres sont là au marché en train de demander des aides et de nous et de nous. Bon, donc il y en a aussi qui passent sur leur nuit dehors, à vrai dire. Ici, vraiment, c'est très rare de trouver un handicapé qui travaille dans un bureau. Très rare aussi de le voir un peu dire quelque chose qui lui appartient, hein, quelque chose qui lui appartient, comme je voulais dire.
Donc ils vivent dans la pauvreté, en somme.
Pardon?
Donc, ils vivent dans la pauvreté.
Ouais, c'est ça. Ils vivent dans la pauvreté, à vrai dire. Ils sont les plus négligés ici, vraiment.
Mm-hmm. Qu'est-ce que vous préconisez pour aider les personnes handicapées?
Ah bon, avec le changement du pouvoir, je pense bien que l'OTA le prendra en charge.
Merci beaucoup Léon, vous pouvez rester avec nous. Merci pour votre réflexion. Revenez participer surtout à notre calling show quotidien. À votre avis, c'est tous les jours. Je voudrais avoir la réaction de Boukari sur cette question des mendiants. C'est quelque chose qu'on retrouve encore dans toutes les villes. Est-ce qu'on l'a encore à Ouagadougou, notamment ces enfants, même handicapés, hein, des membres inférieurs ou autres, qu'on peut trouver dans certaines villes ouest-africaines? Est-ce qu'on l'en a encore des personnes handicapées qui mendient dans la rue Boukari, notamment à Ouagadougou?
Oui, à Ouagadougou, dans les rues de Ouagadougou, on en trouve. Mais par rapport à celui qui vient de parler chez nous au Burkina Faso, on a au moins une dizaine, ou près d'une vingtaine de personnes handicapées qui sont qui travaillent déjà dans l'administration.
Mm-hmm.
Et
vous dites une vingtaine, c'est ça?
Le concours normalement. Et d'autres qui ont passé le concours sur recrutement sur nouvelle mesure. En 2014, l'État a recruté 97 personnes handicapées. Après, mm-hmm. on a eu deux recrutements dans l'année passée aussi. Donc, ces personnes sont insérées dans la fonction publique. C'est préconisé par la loi de recruter okay. 10% des personnes qui participent au. Il y a un quota de 10%, mais qui n'est pas respecté en tant que tel. Puisque mm-hmm. Cette année, ils ont lancé un concours pour 23 personnes. Or, le quota préconise 10%, il fallait au moins recruter 1000 et quelques personnes, puisque sont nombreux ceux qui ont.
Oui.
Qui ont leur diplôme et qui peuvent postuler au concours de la fonction publique. Mais ils ne peuvent pas prendre part au même niveau d'égalité que les personnes dites valides, dont les concours sont organisés à part pour eux. Mais le nombre n'est pas suffisant pour pouvoir pallier au nombre existant actuellement. Mais sinon, dans les rues, on en frappe beaucoup. Les enfants, comme les vieillards, qui mendient toujours sur le territoire du pays, quoi.
Mm-hmm.
Mais des mesures sont mises en place. L'année passée, ils ont lancé un financement de 2000 personnes handicapées qui devaient être soutenues à 200 000 francs par personne pour créer une activité générative de revenus que nous trouvons un peu. Parce que tu prends 100 000, qu'est-ce que tu peux créer comme un projet consistant à long terme?
Mm-hmm.
Un projet pour quelques jours, c'est vrai que la personne retourne encore dans la rue pour mendier.
Donc, en fait, ils ne sont pas soutenus par un système social avec une sorte de subvention mensuelle, notamment, ou autre?
Non, il n'y a pas de subvention mensuelle, mais une carte d'invalidité instaurée par la loi qui permet d'avoir des réductions dans toute action que peut mener la personne handicapée dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la formation professionnelle et même dans les différents achats. Mais cette carte n'est pas
connue
par les acteurs.
Oui, il faut qu'elle puisse gagner sa vie également, en fait. C'est ça le problème.
Oui, ce n'est pas connu par les acteurs de la santé, de l'éducation. Donc, mais chez nous, au sein de l'université, on a essayé de mener un plaidoyer avec le président de l'université. Et tout étudiant qui a son bac, qui peut aller à l'université de Ouagadougou, bénéficie d'une réduction de 50% des frais d'inscription. Au niveau des universités privées aussi, on a pu avoir des partenaires avec ces derniers-là. Plus de 50% des universités acceptent cette carte-là pour faire une réduction. Mais où nous avons un véritable souci, c'est la transcription des devoirs au profit de nos camarades handicapés visuels.
Mm-hmm.
Puisque ces derniers sont obligés de débourser des sommes envers une structure privée qui va amener une personne pour pouvoir transcrire le devoir et retranscrire pour donner aux professeurs. Or, l'université est bien grande, on pouvait former une personne qui allait être placée pour tout cela. Mais on en parle depuis des années, puisque l'association existe depuis le 30 juin 1995 et depuis œuvre pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des élèves et étudiants handicapés.
Merci beaucoup pour toutes ces informations vraiment intéressantes. Vous restez avec nous, Boukari. On prend un autre intervenant. C'est Youssouf. C'est Youssouf Akoli, non?
Oui, c'est Youssouf Akoli.
Youssouf Akoli, vous êtes au Sénégal.
Effectivement, ici à Dakar.
Alors, vous dites sur notre Facebook qu'il faut juste prendre en compte leur situation de handicap dans tout ce que nous faisons. J'aime beaucoup cette réflexion. Y penser à chaque fois que l'on fait quelque chose, comment ferait une personne handicapée, n'est-ce pas?
Oui, effectivement, tout ce que nous faisons, il faut qu'on prenne en considération la situation d'intimité que se trouvent certaines personnes, notamment la construction de la maison. Il faut que l'État prenne, qu'il ait une politique appuyée, orientée vers les centres de formation pour vraiment intégrer ces personnes-là dans la vie sociale, quoi.
Donc,
à Dakar, partout, tu vois des handicapés en train de demander, ça ne donne pas une bonne image.
Donc, vous voulez dire qu'au Sénégal également, on a encore des personnes handicapées, notamment à Dakar, qui mendient dans la rue?
Effectivement. Jusqu'au centre du monde, il y a beaucoup de personnes handicapées qui demandent dans les véhicules. C'est vraiment désolant, quoi. Il faut que l'État voilà, ait une politique orientée vers ces gens-là. C'est là de créer des centres de formation dans les métiers, voilà, que les gens pourront voilà, exercer, quoi.
Et est-ce que vous savez justement s'il y a des dispositifs politiques, visiblement non, mais je ne sais pas, qui sont mis en place justement pour que les personnes handicapées puissent avoir accès à certaines infrastructures ou autres?
Oui, il y a des centres, mais c'est négligeable, en fait, c'est pas suffisant. Mm-hmm. Il ne peut pas prendre un certain nombre d'handicapés, voilà.
Donc, vous pourriez être plus précis, parce que c'est intéressant ce que vous dites. Vous préconisez des centres de formation. Est-ce que vous auriez une idée du type de centre de formation pour un handicap en particulier?
Par exemple, dans le métier de la poutine.
Oui.
Voilà, il y a d'autres métiers. Hein. Je ne suis pas un spécialiste, mais en tout cas, les spécialistes pourront détecter vraiment les métiers dont les gens pourront exercer.
Merci beaucoup, Youssoufa Colli, pour votre intervention. On revient vers Boukari rapidement. Boukari, au niveau des formations, bon, vous êtes étudiant, vous êtes en troisième année de géographie, en année de licence, donc vous suivez votre formation donc à l'université. Vous êtes un universitaire, vous enseignez même d'ailleurs, mais est-ce que pour d'autres personnes qui seraient dans des cas vraiment des handicaps vraiment plus poussés, est-ce que vous pensez à envisager à pousser à des formations spécialisées, par exemple, dans le cadre de votre lutte?
Ok, oui, il y a déjà des centres spécialisés qui sont là. Je prends par exemple l'UNABPAM qui dans leur cursus scolaire, forme les enfants à la fabrication de nitricots. Il y a aussi un centre qui vient de naître qui est dirigé dont le directeur est le vice-président de l'association des élèves et étudiants handicapés. Un centre de formation c'est spécialement réservé aux personnes vivant avec un handicap. Mais au sein de l'université, il faut dire qu'on essaie de tout faire pour que nos camarades handicapés puissent participer aux formations. Mais les formations professionnelles, c'est là que nous avons des difficultés pour pouvoir accéder à ces formations-là. Parce que là-bas, c'est plus la pratique. Donc, lorsque tu viens, on voit déjà que tu es une personne handicapée, on te met déjà à l'écart, on ne veut pas t'accepter. Mm-hmm. Or, c'est pas les bras ou les mains qui travaillent, c'est la tête qui travaille. Je prends par exemple, moi, mon cas, je suis enseignant du cours d'initiation à l'entrepreneuriat dans un lycée de La Place, où j'enseigne depuis 3 ans avec mon handicap. Mais ailleurs, par exemple, au niveau du primaire, lorsque tu es une personne handicapée, on ne t'accepte pas. Comment tu vas t'arrêter pour pouvoir enseigner. Donc voilà, moi j'arrive et j'essaie de les sensibiliser avec ça. Si moi j'arrive, c'est que mes camarades handicapés me disent, je peux y arriver. Mais pourquoi cette discrimination? Donc au niveau de la formation, la loi préconise à ce que les personnes vivant avec un handicap aient un accès prioritaire à toute formation professionnelle. Mais sur le terrain, c'est autre chose qu'on remarque.
Ouais.
Parce que les personnes, lorsqu'on va avec la loi, ils se disent non, ils ne sont pas au courant de cette loi, ils ne connaissent pas cette loi, il faut que la décision vienne de haut. Or, là-haut aussi, ça traîne là-bas. Ce n'est pas une priorité aujourd'hui pour notre État, la question du handicap. Mais lorsqu'on parle de la question de l'enfant, la question de la femme, voilà, l'État court parce qu'il y a beaucoup d'argent là-bas. Mais pourquoi il y a des partenaires financiers sur le côté handicap? Donc, l'État se désintéresse. Pas mal, quoi.
Merci Boukari, restez avec nous. Je voudrais justement citer Jacob Sawadogo, qui est également au Burkina Faso. Il a écrit sur notre Facebook, ici au Burkina Faso, il tire le diable par la queue pour avoir juste de quoi se mettre dans la bouche. La situation est sinistre, dit-il. Il y a Berry Bera, qui est en RDC. Il dit des personnes handicapées victimes de discrimination, il n'en manque pas chez moi, et on essaie de le joindre justement. Il y a Franklin Women qui dit, lui, en les orientant vers des formations appropriées, ce sont des personnes à valoriser. Voilà, donc c'est le conseil que donne Franklin Women. Il y a Gervais qui est en Guinée. Lui, il dit, ici en Afrique, ils ne sont pas pris en charge. Chez moi, ici en Guinée, Guinée, ils sont sur les routes pour quémander. Donc cela veut dire que leur condition n'est pas prise en charge par le gouvernement. Il est à Conakry, on essaie de le joindre également Gervais. Il y a Jonathan Moulumba, lui qui dit que les personnes handicapées ont vraiment besoin d'aide. Et nous avons Richard et François qu'on essaye de joindre en RDC. On a François justement, et après on essaiera d'avoir Grâce aussi éventuellement pour terminer. François, bonsoir, à vous la parole. Allô François? François, est-ce que vous m'entendez?
Je vous écoute.
Alors c'est à moi de vous écouter, je voudrais bien avoir votre réflexion sur la question des personnes handicapées dans votre pays, comment ça se passe?
Bon, dans notre pays, ici en République démocratique du Congo, on ne supporte que ça les hommes handicapés.
Oui, allô?
Allô?
Oui, continuez, on vous écoute.
Ici en notre pays, on ne supporte pas les hommes handicapés parce que notre gouvernement est mauvais. C'est pourquoi notre pays, notre pays ne supporte pas les hommes handicapés.
Vous avez des exemples à citer, notamment, que vous auriez vu autour de vous?
Allô?
Est-ce que vous avez des exemples à nous citer, notamment, de personnes handicapées autour de vous qui auraient eu rencontré des difficultés, justement, pour accéder à tel ou tel endroit ou pour arriver à s'intégrer dans la société?
Oui, oui, il y a une maman, la voisine, jusqu'au présent, elle est handicapée. Le gouvernement ne supporte pas.
Mmh. Et est-ce que donc vous espérez peut-être avec un nouveau gouvernement que ça se passera mieux pour les personnes handicapées?
Ah oui, c'est ça que nous voulons. Nous voulons d'abord ce que le nouveau gouvernement supporte d'abord les handicapés.
Merci beaucoup François. Est-ce qu'on peut avoir Grâce qui est également en RDC? Dommage, on ne peut pas avoir Grâce. On va terminer. Ah, nous avons Grâce. Formidable. Grâce, elle va dire le dernier mot. Bonsoir. Grâce, vous m'entendez?
Oui, je vous écoute.
Oui, un dernier mot sur les personnes handicapées. On vous écoute en RDC.
Ah oui, il faut que le gouvernement aussi puisse s'impliquer hein, dans ces histoires. Souvent, dans nos pays d'Afrique ici, les gouvernements ne s'occupent même pas des handicapés. Ils doivent quand même s'impliquer dedans. Et ce sont des personnes comme nous. Il faut qu'ils puissent les prendre en compte.
Donc vous-même, vous êtes concerné, c'est ça?
Non, je ne suis pas concerné. Bien, je vois comme les gens traînent dans les routes, ils sont devenus des mendiants, demander des choses. C'est pour cela qu'il faut que les gouvernements s'impliquent dans cette histoire. Il faut que ça finisse. C'est pas du tout bien voir dans des boulevards des mendiants, des handicapés, des aveugles. C'est pas vraiment normal.
Un grand merci pour votre réflexion. On termine très rapidement avec le mot de la fin. Boukari, si vous auriez 30 secondes là pour dire quelque chose.
Ok, j'aimerais demander à la société d'essayer de considérer les personnes handicapées comme des poids morts, en comprenant qu'ils n'ont aucun rôle à jouer dans la société. Aussi demander à nos autorités de prendre en compte le volet handicap dans tous les projets, programmes et politiques de développement qui seront amenés à mettre en œuvre. Parce que nous n'avons pas accepté notre handicap, c'est la nature qui nous a rendus ainsi. Demain, ça peut être eux, après demain, ça peut être leur enfant ou leur époux. Donc, ensemble, on met dans la main qu'on essaie de prendre en compte le volet handicap dans tout ce que nous faisons dans notre vie. Vraiment, je vous remercie.
Un grand merci à vous, Boukari Kiema, secrétaire permanent de l'Association des élèves et étudiants handicapés du Burkina Faso. Un très grand merci à toutes nos auditrices, à tous nos auditeurs, et bien entendu à Firmin Max Koyaweda et à Michel Joseph à la production. À très bientôt, au revoir.